parce que je sais qu'il y a quand même une empreinte musicale, tu disais Word, après on repréciserait un peu, mais il y a quand même des, on va dire, des particularismes aussi.
C'est surtout des banques de samples qu'il y a sur des ce qu'on appelle les skip-proof, dans le terme des scratchers, on va dire. Et voilà, c'est ça peut être des voix, ça peut être des cris, des bouts d'instruments, des voilà. Et sur chaque morceau, il y a un son qui est prévu et voilà. Et il y a aussi quelques samples qui sont prévus aussi pour un solo à un moment précis de notre live. Et voilà, on mélange tout ça.
Alors sur scène, tu es DJ Balcaliente. On va.
DJ Balcaliente, c'est Gilles qui est au trombone.
On a tous un petit peu des projets. Enfin, moi, je suis avant tout tromboniste, mais aussi DJ. Et donc DJ Balcaliente en projet solo.
Ok.
David est aussi DJ plus scratcher, hip hop. Donc DJ looping.
Voilà. De Nantes, du coup. Gilles est de Rennes, ouais. Et Sam est de Paris,
sa clarinette. Il en faut clarinette.
Voilà. Ouais. Et du coup, le nom, par contre, Balkanité, lui, il résume quand même assez bien les sonorités, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans les Balkans, mais on est à la fois aussi sur les rythmes latinos, dansants, parce que le but, c'est de faire que la foule transpire un peu, quoi.
La foule, généralement, transpire beaucoup, ouais. Ouais. C'est vraiment un show aussi qu'on veut hyper participatif avec le public. Donc, on les met à contribution. On a des petites surprises sur le set en distribuant de la vodka. Donc, sur une partie de musique un peu plus balkanique, voilà. Et c'est vrai que, Molotov Brothers, c'est vraiment le nom du trio. Après, c'est moi qui a... qu'a créé un peu ce projet et avec ma couleur musicale de base Balcaliente. Donc vraiment très world et puis après on a tous ramené notre sauce, c'est du balkan, de l'électro-balkan, de la drum and bass, il y a un petit peu de tout, on veut vraiment faire un petit shaker hyper explosif pour que les gens aient à la fois un beau petit voyage musical de plein de sonorités d'un petit peu partout. Très rythmé, puis ça danse, ça fait la fête, voilà, on sourit, on passe un bon moment tous ensemble.
Ouais, on a eu un parti pris quand même d'ouvrir assez largement possible le répertoire afin de contenter tout le monde, et puis aussi ça permet aussi au public de découvrir dans certains cas des styles musicaux qu'ils ne connaissaient pas forcément ou très vaguement, quoi. Donc et effectivement, comme tu l'as super bien dit, Gilles, le but, on est vraiment sur un but très festif et puis enfantin, on veut un truc très très léger, quoi. On n'a pas envie de faire des trucs compliqués et où on se prend un peu la tête, il faut que ça reste léger avec une super ambiance et pour l'instant on trouve qu'on réussit bien le truc, quoi.
Et puis là vous êtes en pleine déambulation vous-même puisque là vous revenez des Francofolies, il y avait le festival Campagnard aussi, ouais. Donc là ce soir à Terre du Son, j'ai vu qu'il y avait d'autres dates à venir et qui n'étaient même pas d'ailleurs que en France, on en parlera, ouais. Est-ce qu'il y a une partie justement déambulation aussi parce que ça ressemble à ce que votre approche, il y a presque un côté un peu fanfare, est-ce qu'il y a cette partie là où à un moment donné ça peut déborder avec on va aller dans le public avec les cuivres ou on reste sur scène et comment ça se passe?
Alors il y a une vraie partie déambulation, il n'y a pas, hein, on ne va pas être un groupe qui va jouer à proprement dit dans la rue. Après de plus en plus on s'autorise à aller dans le public avec les cuivres puisqu'on a les micros HF et qu'on n'est pas embêté avec les fils. Aller vraiment participer avec eux, enfin voilà, vraiment de faire un tout en fait. Enfin voilà, il y a les artistes, ok, mais il y a aussi le public et on forme une équipe et on passe un bon moment.
Donc j'ai vu que vous alliez jouer fin juillet le 25 si ma mémoire est bonne en Hongrie.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà joué en Europe centrale et dans les Balkans et quelle réception il y a là-bas de la musique que vous proposez puisque les musiques que vous réinterpréter en tout cas que vous jouez sont d'inspiration clairement de cette région d'Europe.
Alors on a eu la chance de jouer à Szeged Festival, ça remonte un petit peu, c'est 2018. Ouais, ouais. 2018 alors c'était très sympa, on n'a pas eu le public qu'on voulait, on avait une programmatrice de la scène world du Szeged qui est française qui nous a programmé avec la caravane Pass là-bas, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment
Il a lieu où ce festival?
À Budapest.
Ouais, en Hongrie, ouais.
Budapest. Et là, cette année, dans le développement du projet, on vient d'être signé chez Common Tour, qui est une grosse boîte de production et de booking sur, sur Rennes. Et qui nous a tout de suite, voilà, on nous envoie en Hongrie pour le Veszprém Street Festival, qui est un festival international sur deux dates. Donc ça va être une actu sympa. Et effectivement, on était en duo à La Rochelle et on a fait Campagnard où on jouait après la Ruda Salska et sur la grande scène, et c'était très très chouette.
La musique, c'est jamais neutre, notamment là, si on parle de la Hongrie, j'imagine que une partie peut-être de votre répertoire sont des musiques qui sont aussi l'expression identitaire et culturelle de minorités qu'on retrouve de toute façon partout, des Balkans, j'ai envie de dire de la Grèce jusqu'en Tchéquie. Il y a peut-être aussi un parti pris, en tout cas, d'aller en Hongrie, c'est quelque chose de fort aussi.
Ouais.
Alors nous, c'est vrai que ça nous touche particulièrement vu le répertoire qu'on aborde, d'être sollicité pour aller jouer dans ces régions-là. J'ai pas mal vadrouillé en Europe de l'Est, moi, sur de différents projets. Et c'est vrai que c'est des régions où on est toujours très très bien accueilli, où la musique folklorique n'a pas du tout le même impact qu'on pourrait avoir en France, par exemple. Et donc, du coup, je sais par avance que ça va super bien se passer, qu'on va avoir un super accueil, quoi.
On dit souvent que des fois en France le public est parfois quand il y a un DJ, que le public comprend bien qu'il y a une sélection musicale qui est faite derrière, qui a un parti pris, que parfois c'est un peu compliqué parce que le public aime bien se sentir dans une zone de confort avec des choses qu'il connaît. Vous jouez a priori, on va dire, des choses justement, vous parliez de découverte, mais de découverte facile, justement, c'est une part de votre leitmotiv, ça, de faire glisser doucement les gens vers en dehors d'une zone de confort.
Alors, je pense qu'il y a quelques morceaux connus, voilà, quelques airs. On va jouer un Sirtaki un peu façon électro, donc voilà, d'origine grecque, ce morceau. Donc là, il y a quelques choses connues, mais on va disséminer dans le set. Voilà, il y a vraiment des gens, je pense, qui découvrent vraiment des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est. Voilà, quelques cumbias, mais même si j'ai envie de dire que la cumbia, bon, c'est un peu plus connu, mais voilà, on aime bien des cumbias un peu électro, un peu... Bon, c'est pas ce qu'on joue le plus. Mais il y a quand même, ouais, je pense qu'on glisse quand même, voilà, et puis on essaye aussi de, voilà, par petites touches, de donner les infos au public, de savoir où ils vont, voilà, sur, voilà, c'est tel morceau, ça vient d'ici, enfin voilà, sans en faire trop, mais on les oriente un petit peu dans le voyage qu'on fait, quoi.
Oui, pas montrer que c'est un espèce de truc monolithique, l'Europe de l'Est, et qu'en réalité, c'est plein de nuances, ouais.
Ah bah, il y a, voilà, mais comme partout, on parle de la cumbia se décline dans chaque pays d'Amérique latine avec des sonorités différentes. En Europe de l'Est, c'est pareil, chaque pays a ses, chaque, voire même région, a des particularités dans la manière de jouer, voilà. Et ça, c'est sympa, on essaie de faire un grand mix de tout ça, bien festif, et ça fonctionne pas mal, ouais.
Et ben, on va vous souhaiter un bon concert. Donc pour ce soir, on répète, c'est à 20h15 sur la scène de l'Écovillage.
Ouais.
L'Écovillage, c'est gratuit, on rappelle aussi. Voilà, un bon délire musical que de venir ce soir à Mont, 20h15, pour aller s'ambiancer avec la musique cuivrée et scratchée des Molotov Brothers. Et ben, merci à vous. Et puis là, pour le coup, définitivement rendre l'antenne pour ce festival. Les podcasts à retrouver très prochainement sur notre site www.radiocampustour.com. On communiquera là-dessus dès que ça sera en ligne, il n'y a pas de souci. Et puis un prochain festival, un prochain plateau radio avec nos partenaires des radios de la région. Ciao ciao.
Radio Campus Tour.
What I know. Ready. This time around, the revolution will not be televised. Step. Get that. Yeah, boy.
Radio Campus 88.3 FM. Dernier sur l'audience, mais premier sur le style.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Aujourd'hui, Univox se consacre à une question d'environnement. Radio Campus Bordeaux, qui traîne pas loin des plages, s'intéresse de près à toutes les questions qui concernent la mer. Avec le prochain grand débat national sur la mer et tous les enjeux internationaux qui s'y rattachent, il faut dire qu'il y a de quoi réfléchir. La France, avec son immense domaine maritime, le deuxième du monde, a une implication particulière sur les questions qui concernent la haute mer. Elle est équipée à des connaissances des instituts, comme l'IFREMER, de l'expérience, des intérêts. Elle revendique une place dans le débat international, aussi bien sur des questions scientifiques que pour le contrôle des ressources ou leur préservation. Or, dans le contexte scientifique international, comme dans celui du changement climatique et des adaptations du régime énergétique mondial, il y a une ressource qui est apparue depuis 20 ans comme étant du plus haut intérêt. Ce sont les nodules polymétalliques, agrégats géologiques de formation lente, les plus lents à se former, paraît-il, et contenant des métaux rares stratégiques pour les récents développements technologiques. Or, ces nodules polymétalliques gisent au fond des océans, dans les grands, les hauts fonds. Les hauts fonds, convoités également par des projets de stockage de carbone, excitaient déjà les convoitises, alors même que ces espaces sont inconnus de la science. La course à l'exploitation minière de cette manne inespérée avait commencé un peu vite, avec de nombreux projets d'investissement dans l'extraction minière de hauts fonds, qui nécessite un lourd travail de recherche. Lorsque la Haute Autorité pour les fonds marins, l'AIFM, a mis le holà. Un accord international sur les fonds marins a pris plusieurs mesures, dont le blocage des projets d'exploitation des eaux internationales, celles qui n'appartiennent à aucun pays, et la délimitation d'une zone d'étude avec des contrats d'exploitation pour la recherche. Il s'agit de la zone Clairion-Clipperton, une zone de fracture géologique sous-marine de l'océan Pacifique, d'une longueur d'environ 7000 km. La zone s'étend sur environ 4 500 000 km². C'est l'une des plus grandes lignes du plancher Pacifique Nord, au sud de la zone de fracture de Clarion. Elle forme approximativement une ligne sur la même latitude que l'île de Clipperton, d'où son nom. En 2016, la zone d'étude est décrétée en raison de la présence abondante de nodules de manganèse. 21 milliards de tonnes contenant manganèse, mais aussi nickel, cuivre et cobalt 10. Mais elle s'avère également contenir une vie abondante et diversifiée dans les écosystèmes benthiques, ceux qui sont au contact du plancher océanique. C'est leur nom, écosystème benthique. Or, plus de la moitié des espèces qui y sont collectées, essentiellement des xénophiophores, dont les foraminifères, dont nous reparlerons, sont inconnus. On envisage par ailleurs de publier un code d'exploitation minière en eau profonde avant toute entreprise. En 2019, suite à une expédition internationale du projet Océan de la JPI, on signale l'extrême fragilité des milieux benthiques et des demandes pour un moratoire sur les eaux profondes aboutissent à une nouvelle réunion en 2022 de l'AIFM qui confirme un accord de protection dans lequel la France s'engage particulièrement. Personne ne touche aux écosystèmes benthiques, ailleurs, mais des contrats d'exploitation et de recherche sont délivrés sur Clarion-Clipperton pour comprendre ces milieux et développer des technologies. C'est dans ce contexte que Radio Campus est allé rencontrer Sébastien Hibert et Pierre-Antoine Descendier qui travaillent à l'IFREMER. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est en effet un établissement public à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est donc chargé de réaliser ses explorations scientifiques pour la France, et notamment celle qui vient d'avoir lieu en 2024 à bord du Pourquoi Pas. Le Pourquoi Pas est un navire roturier de la flotte IFREMER bardé de matériel conçu pour des missions d'hydrographie, géosciences, océanographie physique, chimique et biologique, et pour mettre en œuvre des sous-marins de poche tels que le Nautil ou le Victor 6000. À son bord, 20 marins, 40 scientifiques. Alors on y va pour cette interview Univox.
Univox.
Donc je m'appelle Sébastien Hibert, je suis ingénieur mécanicien de formation. Je travaille depuis une vingtaine d'années avec une partie de mon parcours dans l'industrie, de la construction navale et des énergies marines renouvelables notamment. Et puis depuis environ 10-15 ans dans le monde de la recherche marine au sein de l'Institut français de recherche sur la mer, donc l'IFREMER, où j'occupe la fonction de coordinateur France 2030 Grand Fonds, qui implique notamment de gérer les deux contrats d'exploration que l'IFREMER détient sous le patronage de la France, dans la zone de Clarion-Clipperton et sur la dorsale atlantique. La zone de Clarion-Clipperton se situe dans le Pacifique Nord. Hein, c'est une des parties du Pacifique Nord. On la nomme comme ça parce qu'elle en fait, elle est définie par deux zones de fracture, hein, la zone de fracture de Clarion et la fracture de Clipperton. Une zone assez grande dans le Pacifique Nord qui est connue pour recéler des nodules polymétalliques avec une relative abondance. Les nodules polymétalliques sont des espèce de balle de tennis hein, de quelques centimètres de diamètre qu'on trouve au fond dans les plaines abyssales. L'exploration de cette zone et de ses ressources en nodules polymétalliques est gérée par l'Autorité internationale des fonds marins. qui a été mise en place en 1996 dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a donc pour objet de réglementer et d'organiser les activités dans la zone, c'est-à-dire dans la haute mer, au-delà des zones qui sont sous contrôle des États. Et donc c'est dans le cadre de cette Autorité internationale des fonds marins que l'IFREMER, sous patronage de la France, a déposé et obtenu en 2001 un contrat d'exploration pour les nodules polymétalliques sur une petite portion, 75 000 km² de la zone de Clarion-Clipperton. Donc l'IFREMER détient un contrat d'exploration avec l'AIFM dans la zone de Clarion-Clipperton depuis 2001. C'est un contrat qui avait initialement une durée de 15 ans, donc qui allait jusqu'en 2016, et qui ensuite, à la demande de la France, a été renouvelé une première fois en 2016 et une deuxième fois en 2021, avec donc une prolongation actuelle qui court jusqu'en 2026. Alors d'un point de vue général, un contrat d'exploration avec l'AIFM nécessite de mettre en œuvre un programme d'activité dont l'objectif est double. Il est d'abord, d'un point de vue géologique et ressources minérales, d'essayer d'évaluer et de quantifier les ressources qui sont présentes dans la zone du contrat d'exploration. Et puis, le deuxième volet, le deuxième on va dire objectif d'un contrat d'exploration au sens de l'AIFM, c'est d'établir l'état initial de l'environnement, donc décrire l'environnement dans cette zone d'exploration pour pouvoir identifier eh bien, tous les écosystèmes, la biodiversité, la sensibilité. Et ensuite, en cas d'intérêt pour une éventuelle exploitation, d'avoir les éléments disponibles pour pouvoir mener et réaliser une étude d'impact. Donc voilà les objectifs un petit peu généraux d'un contrat d'exploration au sens de l'AIFM. Au niveau de l'IFREMER, étant un organisme de recherche, nous nous inscrivons bien sûr dans le cadre général des contrats d'exploration de l'AIFM, mais avec un focus particulier sur les questions scientifiques, donc de compréhension d'un point de vue géologique sur les ressources, leur répartition dans la zone du contrat, des questions également sur leur formation, et puis le lien avec les habitats et les différents écosystèmes. Et puis, un volet très important dans notre activité, notre programme d'activité, sur la connaissance des écosystèmes. Il faut bien voir que ce sont des environnements qui sont très peu connus. Et donc, il y a encore énormément de choses à découvrir sur les espèces qu'on y trouve, sur le fonctionnement des écosystèmes, sur la connectivité entre les différentes espèces et leur répartition dans cette grande province géographique. Et puis, essayer ensuite de comprendre leur capacité de résilience en cas d'impact anthropologique, voilà, donc anthropique, pardon. Notre objectif, c'est d'apporter des éléments de connaissance sur ces écosystèmes pour alimenter les choix et les décisions politiques en phase avec la position nationale de la France sur la question des ressources minérales et le fait de ne pas les exploiter.
Donc je suis Pierre-Antoine Descendier, je suis chercheur en écologie benthique à IFREMER, donc je suis spécialiste de micro-organismes qui vivent au niveau des fonds marins, plus spécifiquement dans les zones de grande profondeur et des milieux extrêmes, donc au niveau des dorsales où il y a des milieux hydrothermaux et aussi au niveau des plaines abyssales où on trouve notamment la présence de nodules polymétalliques. Et en outre de mes responsabilités en tant que chercheur, je suis pilote scientifique pour le volet environnemental du contrat sur les nodules polymétalliques dans la zone de Clarion-Clipperton. Les zones sur lesquelles je travaille sont des milieux qu'on considère extrêmes parce qu'ils sont à très grande profondeur et ça génère un environnement compliqué pour les organismes qui vivent au fond pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une absence de lumière, ce qui fait qu'il n'y a pas de photosynthèse, donc l'énergie principale qui régit les sources de nourriture pour les organismes qui vivent dans les océans. Et la deuxième raison, c'est qu'à forte profondeur, il y a aussi une forte pression. Donc on considère que ces milieux sont extrêmes pour ces raisons-là. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons qu'on a longtemps considéré que les grands fonds étaient plutôt pauvres en termes de biodiversité ou d'abondance d'organismes. On s'est rendu compte il y a plusieurs décennies maintenant que c'est pas tout à fait vrai et que c'est même l'inverse dans certaines zones particulières comme les zones hydrothermales ou encore les zones de plaine abyssale où on retrouve la présence de nodules parce que les nodules polymétalliques notamment représentent des substrats durs, donc qui est des roches qui sont présentes dans des endroits où on a normalement que de la vase. Et donc du coup ça crée une hétérogénéité des habitats, ça crée le potentiel pour des organismes de se fixer sur le fond. Ils ont besoin de ces roches, de ce substrat dur pour se fixer. Et ils vont donc pouvoir vivre au milieu de ces zones avec les organismes qui vivent dans les sédiments plus meubles, les vases qui sont autour. Donc on a une diversité d'habitats qui crée une diversité d'organismes. On est en collaboration avec des partenaires européens qui sont aussi contractants de différentes zones, les zones allemandes, les zones belges, sur lesquelles on a récupéré des échantillons. Donc on analyse les organismes qui vivent dans ces zones-là. Et on est également en train de planifier des campagnes pour aller échantillonner la zone française qui a déjà été échantillonnée par le passé, par notre institut, et sur laquelle on va retourner pour continuer notre exploration, l'inventaire de la biodiversité des grands fonds, et essayer de déterminer les espèces qui y vivent et leur écologie, comment elles vivent dans ces zones-là. Qu'on a une très forte diversité d'organismes dans ces environnements-là, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément au départ, mais on a vraiment démontré, et ça se confirme à chaque fois, la diversité des organismes, elle est supérieure aux zones de profondeur équivalente, mais qui n'ont pas la présence de nodules, par exemple, donc pour ces raisons-là, à protéger encore plus. L'autre résultat très important, c'est qu'on a la présence d'espèces rares, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle mission, on découvre de nouvelles espèces qui n'ont jamais été décrites dans aucune publication scientifique et qui, en plus, sont très peu abondantes. Donc, en fait, on va avoir du mal, d'une zone à l'autre ou d'une campagne océanographique à l'autre, à retrouver les mêmes espèces. On va en trouver des nouvelles et en faible abondance. Ça, c'est un résultat extrêmement important parce que ça ajoute au côté, je dirais, fragile de ces espèces en termes de diversité. Puisque si elles sont nombreuses mais rares, le fait qu'elles puissent disparaître à un endroit fait qu'on n'a aucune certitude sur le fait que ces mêmes espèces puissent être présentes ailleurs et donc survivre. Et enfin, on travaille donc de plus en plus maintenant sur le potentiel impact et l'évaluation d'impact potentiel. Et donc, on a des premiers résultats qui sont assez préliminaires, mais sur des tests de collecteurs qui ont été faits par les collègues, notamment le groupe belge, qui ont donc déployé un collecteur test. Et donc, on commence à avoir des échantillons sur le passage de ce collecteur et juste après. Et donc là, on a pu voir effectivement le panache d'extraction, la dispersion un petit peu de ces particules et les spécimens qui ont été impactés par le passage lui-même du collecteur. Donc on voit qu'effectivement, il y a une disparition d'espèces, mais qui est moindre que celle qu'on pensait à très court terme. Et maintenant, la réponse qu'on attend pour le futur, donc dans le cadre de nos collaborations avec les Européens, c'est d'aller retourner au même endroit pour voir quel est l'avenir de ces organismes plusieurs mois après le passage du collecteur. Parce qu'évidemment, on peut s'imaginer que ces espèces survivent sur le coup, mais elles subissent un stress écologique énorme. Donc, est-ce qu'elles vont pouvoir survivre sur le long terme, se reproduire et continuer leur cycle de vie normal, ou est-ce qu'elles ont été simplement en survie à ce moment-là, mais qu'elles vont être amenées à disparaître? Et la deuxième question, sur ce qui nous concerne plus en particulier sur notre zone, c'est vraiment d'aller chercher à plus haute résolution au niveau spatial quelles sont la distribution des espèces, le rôle écologique de chacune de ces espèces. On parle de réseau trophique, c'est-à-dire qui mange qui, pour faire simple. On parle de connectivité, comment une espèce peut se déplacer d'un endroit à un autre pour coloniser des nouveaux environnements. On essaie également d'avoir des informations sur notamment l'impact des pentes, parce que les plaines abyssales sont caractérisées par des environnements relativement plats, mais il y a quand même des incisions de quelques degrés qui peut jouer sur ces organismes, et ces incisions de quelques degrés, elles sont pas anodines, parce que le passage des collecteurs tels qu'ils sont décrits par les industriels qui envisagent l'exploitation jusqu'à maintenant, il est limité par ces pentes. Ils estiment que leurs collecteurs ne pourront pas être efficaces à plus de 4 ou 5 degrés de pente. Donc est-ce que ces zones où ils ne pourront pas aller chercher les organismes peuvent représenter des zones refuges pour ces organismes qui ne seront donc pas affectés ou pas? Ça, c'est l'une des autres questions qu'on va avoir sur les campagnes à venir. On distingue plusieurs catégories d'organismes qu'on a séparés en termes de gamme de taille pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons d'expertise. Parce qu'en fait, ces environnements-là sont très vastes, mais ils sont aussi caractérisés par un nombre de spécialistes des espèces qu'on appelle des taxonomistes, qui est extrêmement restreint sur la planète. Donc on est obligé de collaborer et de classer finalement un petit peu ces organismes pour se répartir le travail. Donc on a dans ce qu'on appelle la mégafaune, ce sont les organismes qu'on peut voir avec des sous-marins, avec des images, donc qui sont assez gros pour être vus à l'image. Cette mégafaune, elle est caractérisée par certains organismes qui se déplacent et beaucoup d'autres qui sont fixés. Parmi les fixés, on a des coraux d'eau froide, des éponges, donc qui sont donc fixés sur les nodules en eux-mêmes. Là, il faut se représenter des organismes qui font quelques dizaines de centimètres, blancs, qui n'ont aucun intérêt écologique à avoir de la couleur dans un environnement où il n'y a pas de lumière, et qui sont parfois branchus, avec des formes assez souples. Ce sont des organismes qui bougent un petit peu en fonction des courants, donc ils ne sont pas très rigides, et qui montent généralement un petit peu verticalement. Ensuite, on a la macrofaune. C'est ce qu'on peut voir à l'œil nu, mais évidemment, c'est très compliqué de la voir avec un sous-marin, puisqu'ils vivent parfois sur le sédiment, parfois à l'intérieur. Donc en fait, là, on va collecter des échantillons avec des carottages de différentes tailles, et en fait, on va les trier à bord. Donc on peut quand même les voir à l'œil nu, mais il faut les sortir du fond et les collecter et les trier sur le bateau. Parmi cette macrofaune, on a des polynoïdés, donc des vers, qui sont de différentes tailles. Au-delà de ça, on passe après dans ce qu'on appelle la méiofaune ou la microfaune, donc c'est des organismes, et ce sont parmi les organismes les plus abondants de ces environnements-là. C'est la faune qu'on appelle invisible, où là, on est obligé de passer par un microscope, une loupe binoculaire, pour les voir et surtout les identifier en termes d'espèces. Et là, il y a une énorme diversité, encore une fois. On a des nématodes, des copépodes, donc des petits organismes qui ressemblent soit à des toutes petites crevettes, soit à des tout petits vers. Et on a aussi des protistes, donc des foraminifères, par exemple. Moi, c'est ma spécialité, ce que j'étudie. Donc là, il faut se représenter des organismes qui ont soit une petite coquille en calcaire, soit qui récoltent des particules existantes pour se créer une protection autour du tissu vivant. Et là, ils peuvent avoir absolument toutes les formes possibles et imaginables. Certains d'entre eux collectent même des fragments de nodules pour créer cette petite coquille. Donc ils ont des couleurs différentes. Et parmi eux, il y en a même certains qui n'ont absolument pas de coquille. Et donc là encore, ils peuvent être branchus, ils peuvent être fixés autour des nodules comme une espèce de tapis un petit peu bactérien. Ou alors, ils peuvent être enfouis dans les sédiments avec, là encore, des formes parfois branchues, parfois très allongées. C'est très très compliqué d'un point de vue taxonomique pour décrire ces espèces parce qu'elles ont des formes très diverses et variées et pas faciles à identifier. Et beaucoup, pour la grande majorité en fait, elles n'ont pas été décrites dans la science, donc on doit les identifier, mais en plus leur donner des noms et faire des descriptions, en s'aidant parfois de la génétique, pour reconnaître ces spécimens. Donc pour ce qui s'agit des foraminifères, il y a différents types de sensibilité, puisqu'il y a des foraminifères qu'on qualifie de géants, qui portent aussi le nom de xénophiophores, et qui sont assez emblématiques de la zone, ce qui sont fixés sur les nodules. Donc là, ça ressemble à des grandes feuilles sur lesquelles il y a une accumulation de minéraux. Et le tissu vivant, il est comme les veines un petit peu d'une feuille qui permet à cette structure de tenir. Et donc ceux-là, évidemment, puisqu'ils sont fixés sur les nodules, si on imagine qu'on enlève le nodule, on enlève son habitat, donc eux, évidemment, disparaissent directement. Il n'y a absolument aucune chance de survie pour ces organismes-là. Pour la plupart des autres types de foraminifères qui vivent donc dans le sédiment, ils sont relativement tolérants à beaucoup de perturbations. En revanche, si on imagine qu'on perturbe la chimie de leur environnement, par exemple le passage du collecteur va tasser les sédiments, donc potentiellement les écraser déjà, mais tasser les sédiments, donc peut-être rompre les échanges entre l'eau et la vase qui est en dessous, altérer, si on imagine qu'on vient gratter la surface, les premiers centimètres, c'est là où malheureusement il y a 80% des organismes vivants qui sont présents, les premiers centimètres du sédiment, parce que c'est là où on a l'oxygène et le matériel nutritif pour ces organismes-là. Donc évidemment, on va remobiliser ces organismes. Parfois, ils vont être redéposés un peu plus loin dans le panache d'extraction et peut-être survivre. Ça, on n'a pas encore les réponses. Et parfois, évidemment, ils vont juste être détruits parce que pour une majorité d'entre eux, ils sont assez fragiles. Donc bien qu'ils sont considérés comme des organismes assez tolérants en règle générale aux changements environnementaux, ils sont très étudiés notamment pour les changements climatiques parce qu'ils sont sensibles aux variations climatiques, mais ils peuvent également survivre pour certaines espèces et nous apprendre beaucoup sur ces changements-là. Sur l'extraction en elle-même, il est assez clair qu'il y a une vraie sensibilité et un vrai risque de disparition d'une grande partie de la biodiversité. Donc historiquement, on a utilisé des carottes sédimentaires ou glaciaires, mais surtout sédimentaires, pour reconstruire les climats du passé. Et sur ces carottes-là, on va regarder des organismes fossiles pour reconstruire les climats du passé. Donc sur les foraminifères notamment, il y a eu énormément d'études depuis 60-70 ans, qui ont permis, grâce à l'étude de ces organismes-là, de montrer les variations de température, de volume des glaces globaux sur la planète, ce qui nous permet donc de savoir où est-ce qu'on se situe, notamment en termes d'air glaciaire, interglaciaire. Donc ça, c'est basé sur les isotopes stables des coquilles de foraminifères.